Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous en ce dimanche soir, 18h. Soyez prudents sur les routes, vous allez peut-être rentrer de week-end ou être au chaud à la maison. Salut mon Pierre.
Salut ma Lolo, tu m'avais manqué.
Alors ça court, hein. C'est vrai qu'on court en ce moment, je ne sais pas ce qui nous arrive. Alors on va dans tous les sens. Alors,
moi j'ai découvert un truc, c'est en fait je paye le fait d'être à l'avance le matin. Alors je vous explique, je me lève le matin, j'ai une heure d'avance. Et ensuite cette heure d'avance, je la gratte tout au long de la journée. Ce qui fait que quand il arrive à peu près 10h, j'ai déjà une heure de retard. Donc je vous laisse, c'est un miracle si je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est un miracle.
Allez, autre miracle dans notre émission, nous allons parler de Mustang, cette magnifique voiture. Mustang Passion, tous les modèles de 64 à nos jours, on recevra son
auteur. Une voiture qu'on n'a plus le droit de vendre quasiment, quoi.
Sauf que si, ils ont même l'électrique maintenant.
Oui, mais bon, c'est pas une Mustang quand même.
Ah,
non, mais ce qui est marrant quand même, la Ford Mustang, à l'arrivée du malus au poids divers malus écolos, c'est un véhicule qui quasiment, bientôt, n'aura plus le droit de circuler en neuf en France.
Faut être oui, c'est clair.
Non, mais c'est vrai.
Et puis,
ouais.
Première, c'est quand même une voiture qui était plutôt
malus
d'un
écolo,
très
il a 30 000
bon
balles.
Rapport qualité-prix à l'époque, c'est-à-dire accessible à tout le monde. C'était un peu le début d'ailleurs de la création de la Mustang par Ford. Et bien aujourd'hui, avec les malus, il faudra être très riche pour avoir une Mustang.
Tout l'esprit Ford, pour ceux qui ont loupé Le Mans 66, il faut aller le voir. On voit bien la différence entre la Scuderia Ferrari et puis Ford de l'autre côté, avec
déjà,
le regard
un peu. Cheval. Le cheval cabré de la Ferrari et le cheval sauvage. Ah,
c'est hyper intéressant parce que Ford, c'est l'accès grand public à l'automobile un peu sportive. Et ce qui est drôle, enfin drôle, non, c'est pas drôle d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, le malus écolo qui est prévu et qui sera apposé notamment à la Mustang va la rendre quasiment inaccessible pour tous ceux qui avaient le rêve encore d'en avoir une.
On en parlera avec son auteur dans le courant de notre rendez-vous. Benjamin Cuc, qui signe ce livre aux éditions Glénat, sera avec nous. Et puis, vous le savez, à la fin de l'émission, l'échange avec Pierre, c'est votre rendez-vous. Vous n'hésitez pas, vous voulez partager une idée, une envie, un petit coup de gueule, entre guillemets, sur ce qui se passe sur la politique routière ou autre. Vous nous rejoignez au 0826 300 300. Mais maintenant, mon Pierre, on va commencer par un sujet assez incroyable. C'est parti, ça roule. Est-ce que le développement de la voiture électrique est un cadeau que l'on fait à la Chine ?
Sud Radio, ça roule.
C'est un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on en a parlé tous les trois, et c'est Jean-Rémy qui a mis le doigt dessus en disant « Moi, j'aimerais parler d'un sujet dont on ne parle pas. » C'est est-ce que, quand on fait le développement forcé de la voiture électrique en France et en Europe, on ne fait pas un gros cadeau économique à la Chine ?
Bah ouais, puis ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de nous promettre en Europe, Jean-Rémy, qu'on va devenir les leaders de la batterie électrique. Enfin, il faut savoir que quand nous, on investit un, eux, ils investissent 10.
C'est surtout qu'ils ont investi, les Chinois, depuis très, très, très
en plus.
Longtemps. Alors, voyez, l'essor industriel de la Chine, immense depuis les années 2005-2006, et notamment dans le domaine automobile. Ils avaient un retard incommensurable sur toutes les parties de la voiture. La qualité de fabrication globale, la qualité de conception globale, la sécurité, la finition, les équipements.
Tu te souviens, à l'époque, l'Euro NCAP, il passait bien.
Bien sûr. Voilà. Ils se sont ridiculisés avec des voitures au crash test. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont rattrapé leur retard, mais il y a un domaine très technique, où ils avaient un énorme retard, c'est sur le moteur. Le moteur à essence, ils avaient un énorme retard. Et puis là, on voit les choses depuis le Dieselgate, le scandale autour du diesel, Volkswagen, à la rentrée de septembre 2015. Le moteur diesel est discrédité, le moteur à essence dans son sillage devient aussi discrédité, et les politiques s'emparent de cela pour se servir d'un tremplin pour promouvoir la voiture électrique et finalement l'imposer, puisqu'il semblerait que à l'échelle 2035, à l'horizon 2035, la voiture vendue neuve en Europe sera strictement électrique. Même pas hybride, 100% électrique.
Quoi que ça bouge un peu, excusez-moi, Maître Macchia, parce que ça bouge un peu, ça commence à réagir. Là.
Ça
même le CNP a s'y met, tout le monde s'y met.
C'est pour ça qu'il a dit en théorie, c'est parce que c'est la théorie politique.
Ouais, c'est
enfin, c'est pas la théorie, c'est comme une décision européenne qui a été arrêtée. Il pourrait y avoir d'autres décisions qui l'invalident, qui la réaménagent, qui la rendent plus flexible. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est la deadline, la fin des moteurs thermiques, donc essence, diesel, en 2035. Ce faisant, il faut voir les conséquences industrielles et donc sociales, économiques et sociales. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau immense à toute l'Asie et au sein de l'Asie, particulièrement à la Chine. Pourquoi ? Ce qu'on appelle la chaîne de traction, c'est-à-dire moteur plus transmission, aujourd'hui, dans une voiture classique, c'est 40% de la valeur d'une voiture. Ce 40%, ça recoupe le savoir-faire le plus technologique, le plus peaufiné et le plus coûteux en termes de mise au point de la voiture dans son ensemble. Ce savoir-faire, on le jette à la poubelle puisqu'on n'en a plus besoin. moteur, boîte de vitesse.
On et le on remplace était sur par... un savoir-faire européen et français.
Ah oui, et, enfin européen. Bien sûr.
Allemand, italien.
Dans l'histoire de l'automobile, les marques européennes ont été les pionniers.
Aujourd'hui, c'est le leadership, évidemment. Mais allemands et français sont les maîtres absolus en matière de moteur à essence et en moteur thermique. Les japonaises aussi. Les Américains sont loin derrière. Et donc, les Chinois sont complètement largués.
Les Américains sont loin derrière, excusez-moi de vous. Ah ouais?
Oui, bien sûr.
Pourtant, enfin, Ford...
Ouais, ils sont pas encore au niveau.
Ah ouais.
Ford, pour ce qui est des voitures américaines.
Oui, d'accord.
Ford en Europe, c'est différent. Et donc, nous avons ce savoir-faire qu'on va balancer aux orties, à la poubelle, et on va remplacer par une chaîne de traction électrique, moteur et surtout batterie. Là, moteur et batterie, c'est plus de 40% de la valeur, c'est plutôt 60-65% de la valeur globale d'une voiture électrique.
Sauf que
et
ça...
tout cela, c'est fait en... Chine, principalement. En tout cas, c'est asiatique. Et même si c'est pas complètement fait en Chine, les batteries aujourd'hui qui équipent nos voitures électriques, elles sont à quasiment 100% made in Korea, ou par des entreprises coréennes qui ont éventuellement délocalisé, qui ont des usines ailleurs, et en Chine, ou par des entreprises chinoises qui ont délocalisé.
En termes d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont flairé le coup avant nous? Ou alors ils ont les matériaux à disposition? Ou alors ils ont
savoir-faire? Ils ont flairé. Ils se sont dit, le monde de demain sera électrique, qu'il s'agisse de voitures ou d'autres choses. Et donc les Chinois, depuis très longtemps, ils ont peaufiné leur savoir-faire. Ils ont là-dessus une vraie avance technologique en matière de batteries. Ils ont peaufiné leur savoir-faire sur les batteries. Et surtout, ils ont acquis, et donc ils ont toute la chaîne, et ça c'est une énorme menace, ils ont acquis... de par le monde, les mines d'où sont extraites les matières premières pour les matières premières importantes, cobalt, lithium et terres rares pour les batteries et les moteurs électriques.
Vous venez de dire un mot important, une énorme menace. On revient dessus dans quelques instants parce que là, c'est quoi votre menace dont vous nous parlez? Mais tout de suite, on va accueillir Gilles qui nous appelle au 0826-300-300. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Alors vous, à la question, le développement de l'électrique par l'Europe et la France est un cadeau à la Chine au détriment des industriels français et européens, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord, pas d'accord?
Je suis tout à fait d'accord. Si, de toute façon, si l'Europe, ça fait déjà bien longtemps, déjà, on le voit bien avec tout ce qui est boîte électronique, on est en pénurie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su avoir des usines en Europe, ou très peu. Et bien voilà le résultat, on arrête les chaînes de production.
Alors c'est pas les boîtiers, ce sont les puces électroniques.
Les microprocesseurs. Je m'entends, les calculateurs quoi, les puces et tout ça.
Oui. C'est les puces qui sont dans les calculateurs,
oui, c'est ça.
C'est ça, moi, j'ai fait toute ma carrière. Moi je suis électricien auto de formation.
Oui.
Et en fait, ça, on le voit bien que si en Europe on ne fait plus rien, ben on n'aura rien quoi.
Et puis alors, on va rajouter quelque chose, parce que non seulement Jean-Rémy en parlait, ils ont flairé le coup avant, ils ont cette avance technologique, cette avance dans les chaînes de production, cette avance, parce qu'ils ont la mainmise sur les minerais, et puis il y a aussi ce qu'on annonce nous, quand Emmanuel Macron a annoncé cette idée, Jean-Rémy, qu'on allait faire une batterie made in Europe ou made in France qui concurrencerait les Asiatiques, j'ai regardé les investissements. L'investissement, c'est peanuts. C'est-à-dire que nous, pendant qu'on met 1 euro, les Chinois, eux, ils mettent 10 euros.
Ouais.
Quand on investit 50 milliards, ils mettent 500 milliards.
C'est surtout que quand ils mettent 10 euros, ils le mettent depuis 10-15 ans.
C'est ça. Mais même aujourd'hui, l'investissement est 10 fois supérieur. Donc,
aujourd'hui, c'est moins vrai. Non, il y a ce qu'on appelle 50, le projet Airbus des batteries, c'est-à-dire un conglomérat. C'est en train de voir le jour européen, avec un axe franco-allemand privilégié, comme pour l'Airbus avion. Airbus des batteries, il y a donc quelque chose qui est en train de se créer pour qu'il y ait un consortium de conception de fabrication.
Les investissements qui sont décidés, pour l'instant, ils sont vraiment très nettement inférieurs. Donc, on ne peut pas rattraper du retard quand on continue à investir moins. Quand on est en retard, il faut lancer un petit peu plus dans la machine. Ou alors, on se trompe. Et franchement, ça revient à ce qu'on dit. Et c'est une réalité. Oui, on est en train de faire un chèque en blanc et une dépendance énergétique totale à la Chine. En tout cas, pour nos véhicules.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette dépendance, elle est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, effectivement, la dépendance en termes de savoir-faire et concrètement, aujourd'hui, de réalité. Quasiment 100% des batteries qui équipent les voitures sont faites en Asie ou par des entreprises asiatiques, coréennes et chinoises. Et puis, il y a les minerais, les matières premières nobles, cobalt, lithium, terres rares qui sont aux mains des Chinois. Par exemple, le cobalt, les mines sont principalement au Congo. Et l'immense majorité des mines de cobalt au Congo appartiennent à des entreprises chinoises.
Et c'est pour ça qu'on a eu très peur en décembre. Enfin, très peur, oui, on ne l'a pas dit comme ça, mais je pense que c'était vraiment ça, quand il y a eu le vote pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie est pistée par les Chinois à cause de ces terres rares dans ses sols. Le référendum, en tout cas, a voté le fait que la Nouvelle-Calédonie reste en France, mais c'était une des grandes craintes. Si jamais la Nouvelle-Calédonie demandait son indépendance, les Chinois leur seraient tombés dessus, entre autres pour ces fameuses terres rares.
Juste une précision, terres rares, ça se disait métaux semi-précieux à une époque un peu
ouais,
antérieure.
C'est pas
des terres, hein, ce sont des métaux semi-précieux qu'on utilise notamment dans les moteurs.
Allez, on continue d'en parler dans quelques instants. On parle de cette fameuse menace dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Gilles.
Merci.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons de parler de ce sujet important. Le développement en Europe et en France de l'électrique sur les véhicules est-il un cadeau que l'on fait à la Chine? Et d'ailleurs, est-ce que c'était pas quelque chose qui était plus ou moins prévu? Est-ce qu'on nous manipule pas?
Ce que je comprends pas dans cette affaire, Malolo, c'est que les hommes et femmes politiques qui nous gouvernent savent pertinemment le retard colossal et abyssal qu'on a en recherche et développement sur les énergies de type batterie et la dépendance qu'on a aux métaux semi-précieux ou terres rares dont nous parle Jean-Rémy Macquart. On le sait. Donc comment, qu'est-ce qui peut animer l'esprit de nos ministres et de nos chefs d'État lorsqu'ils veulent à tout prix nous emmener vers cette impasse du 100% électrique, en tout cas une impasse économique pour l'instant?
Alors je pense qu'il y a eu d'une part un aveuglement, c'est-à-dire une ignorance. Certains décideurs politiques au niveau national, au niveau nationaux de différents pays, principalement l'Allemagne et la France, ont fermer les yeux là-dessus parce qu'ils ont voulu de façon très dogmatique et totale.
Il y avait un petit point rouge sur le front.
De façon dogmatique et totale, voire uniquement l'électrique. Et puis, il a pu y avoir un lobbying, évidemment, du côté de Bruxelles pour favoriser cela.
Oui, un truc qui me rend fou, c'est quand on regarde qui préside la commission de transport à l'Europe. Il y a de quoi en tomber de sa chaise. C'est Karima Delli, c'est une députée, oui, effectivement, oui. Europe Écologie Les Verts. Donc quand vous confiez le développement des transports en Europe à Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, vous
passez. Oui, mais ça, Pierre, elle n'était pas là à l'origine quand on a fait ce cadeau à la Chine. Parce que moi, quand Jean-Rémy Macquart me dit, un cadeau à la Chine.
Mais c'est un cadeau colossal, mais incommensurable.
Et pourquoi? Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des histoires politiques dessous? Est-ce qu'il y avait des menaces de guerre? Est-ce
qu'il y a l'incompétence?
On va refaire.
C'est une raison, l'incompétence.
Oui, sans doute.
On va refaire le déroulement.
Oui, historique. Voilà,
donc,
historique.
On est en septembre 2015.
Déjà,
le scandale Dieselgate éclate. Volkswagen coupable d'avoir vendu aux États-Unis des voitures prétendument propres, qui étaient diesel, alors qu'elles l'étaient beaucoup moins que ce qu'elles prétendaient. Ils appelaient ça clean diesel et c'était plutôt assez sale. Bon, grosse truanderie. Il faut se racheter. Se racheter par le moteur à essence au détriment du moteur diesel, c'est pas assez fort, ça fait pas assez rupture. Et là, il y a cette nouvelle technologie, enfin, c'est très ancien l'électrique, mais qui semble arriver à un point possible de maturité plus important, avec un peu davantage d'autonomie, etc., qui pointe le bout de son nez. Et les constructeurs automobiles, Volkswagen, le groupe Volkswagen en tête, se dit, voilà, servons-nous de ce tremplin très négatif pour nous qui a été le Dieselgate, ce scandale autour de notre truanderie aux États-Unis, qui entraîne comme un maelstrom un rappel de 11 millions de voitures au total sur la planète. Eh bien, faisons-en quelque chose de positif et on va rebondir avec une fibre très verte. On va promouvoir nous-mêmes, groupe Volkswagen, en fait, la voiture électrique.
En fait, ce qui se passe, c'est grosso modo l'erreur Volkswagen a eu un impact colossal sur l'économie mondiale.
Et à partir de là, les politiques s'en saisissent et disent, mais effectivement, nous qui voulons paraître très verts et vertueux, très vertueux d'un point de vue écologique, eh bien, on va agréger cette, on va intégrer cette problématique, on va prendre le problème de la voiture. Toutes les voitures à moteur thermique polluent. La voiture électrique n'a pas de pot d'échappement, donc elle ne pollue pas. On va la promouvoir et on va la promouvoir de façon radicale, très volontariste, et surtout accélérer. Le planning qui était fin des moteurs thermiques en 2040 au niveau européen a été remplacé par fin 2035, et là, effectivement, c'est un boulevard ouvert à toutes les entreprises.
Avec des conséquences incroyables,
humaines
sur le territoire européen, perte d'emplois, regardez, on en a encore fermé en 2021,
en fait, ils ont confondu. Ils ont confondu, ils ont voulu faire une politique vertueuse, ils ont fait une politique verdâtre. Voilà.
Oui. Rien que la fin du diesel, enfin, je dis pas que le diesel c'est bien ou mal,
non,
c'est pas la question.
C'est pas ça.
On parle des conséquences économiques et donc l'impact social. La fin du diesel en France, c'est 500 000 emplois directs et indirects
si
qui disparaissent.
Si on avait pris le temps de faire les choses correctement, tous ces gens qu'on met sur le trottoir aujourd'hui, oui. on les aurait formés à pouvoir travailler sur cet électrique en France, etc.
Pour trouver un emploi, il suffit de traverser la rue, vous vous souvenez de l'adage.
Disons que la radicalité, la soudaineté et l'accélération de cette décision du tout électrique impose une rupture de savoir-faire et une rupture industrielle à cette branche automobile que l'industrie ne peut pas encaisser sans dommages. Et les dommages collatéraux, ça
ce
va être évidemment sur l'emploi.
Bon, j'ai pas de boule de cristal, mais quand j'entends ça, je vais quand même faire une prévision. Moi, je vais vous dire, en 2035... elles seront encore en vente, les véhicules thermiques. Ils seront encore en vente. Parce que, très objectivement, déjà, on se rend compte, là, depuis quelques semaines, hein, rappelez-vous, en décembre, Jean-Rémy, on a eu quelques journalistes qui se sont lancés dans ce qu'on dit, nous, depuis belle lurette, c'est que le véhicule électrique, très bien, pourquoi pas, mais en tout cas, pas sur des longs trajets, longues distances, ou en tout cas, pas pour tous les véhicules électriques. J'ai vu passer plein de papiers de la presse auto spécialisée, aussi de grands médias nationaux, qui disaient, bon, ben voilà, on a fait un trajet de 700 bornes, et voilà le périple et le chemin de croix a commencé. Voilà, je me souviens d'un papier, je ne sais plus si c'est Automoto, qui disait ça a été le parcours du combattant. Voilà,
on l'a tous dit.
L'ami Christophe Bourroux aussi, journaliste dans une autre maison.
On l'a tous dit. Moi, je peux vous dire que
mais
j'en
ça y est,
suis...
on ose le dire maintenant.
Oui,
on ose l'entendre.
Mais ça, c'est peut-être transitoire. Là, on parle des choses du point de vue macroéconomique de façon transitoire. Aujourd'hui, effectivement, le réseau de distribution d'électricité n'est pas satisfaisant. Les incidents aux bornes de recharge sont multiples. Moi, j'en suis à 80% d'incidents lorsque je me branche pour recharger une voiture électrique sur les bornes. 80% de fois où ça se passe pas bien, où je suis obligé d'appeler l'assistante. Parfois ça se résout, parfois ça ne se résout pas. Mais là, c'est pas la question aujourd'hui, c'est juste industriellement, quel est l'impact de ce tout électrique.
Justement.
Et effectivement, c'est un boulevard fait aux Sud-Coréens et aux Chinois.
On va peut-être se rendre compte à un moment qu'on est justement dans une impasse économique. Demain, le président de la République qui sera élu pour le prochain mandat, c'est bien beau d'avoir des idées vertes, mais au bout d'un moment, il faut avoir des idées qui sont compatibles avec l'économie de l'État. Lorsque vous avez des constats qui tombent avec 500 000 emplois directs et indirects perdus, si demain on fait du 100% électrique parce que la filière électrique va forcément enlever un savoir-faire français qu'on va importer de Chine, bah forcément derrière ça va mal se passer. On va revenir à du pragmatisme. Je ne peux pas imaginer un mandat présidentiel qui reparte derrière, quel que soit le président, sans qu'on ait un infléchissement de ces mesures 100% électriques.
Surtout que c'est pas seulement une perte de maîtrise de la connaissance ou du savoir-faire théorique ou pratique, mais c'est la fin de la production de ce qui constitue sur une voiture électrique 60% de sa valeur.
Je me fais l'avocat du diable quand même. Actuellement, dans les groupes dit français, on trouve aussi des marques étrangères. Voilà.
Oui.
Et dans ces groupes français, on ne produit plus de voitures en France. Donc je me mets à la place.
Si, on en produit quand même.
Très peu.
Heureusement.
Ouais, mais c'est quasiment rien. Aujourd'hui, les marques qui produisent en France, c'est pas forcément les marques
Peugeot, Citroën, Renault construisent des voitures en France.
Très peu.
C'est une part très minoritaire de leur production totale, parce que c'est aussi des groupes internationaux.
Hein. Fiat construit aussi en Italie, ça reste encore en Europe.
Oui, ça reste en Europe.
Sauf que derrière, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, bah, finalement, qu'on perde de l'emploi dans la filière automobile, on a déjà perdu pas mal. Est-ce qu'il y en a tant que ça à perdre? Est-ce que le chiffre de 500 000 n'est pas gonflé? Ça représente qui? Quel emploi directement?
Ah, les emplois directs et indirects, là on est à plus d'un million de personnes sur le secteur automobile.
Oui, c'est vrai. Mais là, le basculement.
C'est juste radical.
Admettons, ils vont au bout de leur bêtise, qui est une bêtise, ils vont à fond sur l'électrique. Ok, dans 10 ans ou 15 ans, on roule tous à l'électrique. Allez, ok, pourquoi pas, on se transpose. Quel problème ça pose directement dans les métiers? Alors sur la branche de la réparation, ça je vois tout de suite. Parce qu'effectivement,
la
motorisation électrique, on
va faire
la production des voitures.
Toutes les fonderies, la production.
Mais on produit quand même beaucoup moins en France.
Oui, mais on produit encore. Rodez a fermé.
Non, mais on
n'a pas 500 000 emplois de production.
Alors, on ne produit pas seulement des voitures complètes, mais on produit par exemple des moteurs. Le groupe Stellantis, ex-PSA, enfin les parties en tout cas Peugeot, Citroën et Opel, le petit moteur qui est le plus répandu sous les capots des Peugeot, Citroën et Opel,
il est majoritairement fabriqué en France.
À Rennes, à Sochaux.
Il y a d'autres usines. Il est majoritairement fabriqué en France.
Et alors les Sochaliens qui ont vu arriver il y a maintenant 5 ans le président Macron, alors ministre, qui n'était pas encore président, mais qui était venu vanter les mérites du diesel. C'est possible de remettre un pied là-bas quand on est président de la République et qu'on a annoncé le 100% électrique et qu'on va prendre la présidence de l'Union Européenne ?
Le diesel n'est plus en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est paradoxal et dommage, c'est que le diesel, c'est au moment où il est le moins salissant, le moins polluant, qu'il est interdit. Alors qu'aujourd'hui, je vous assure, vous pouvez renvoyer dos à dos moteurs essence et moteurs diesel. Il n'y en a pas un qui soit plus nocif pour l'environnement ni plus nocif pour notre santé que l'autre. Le diesel a même un petit avantage, c'est qu'il émet moins de CO2.
Il y a Carlos Tavares pour revenir à notre sujet, hein, sur le cadeau à la Chine, mais il reste à peine une minute là, qui lui a râlé au mois de décembre en disant que le coût de l'électrification dépassait totalement les limites de la filière automobile.
Il avait déjà poussé un coup de gueule à l'été dernier.
Mais pourquoi on ne l'écoute pas?
Parce qu'il est dans une position délicate. On peut dire qu'il fait du lobbying, on peut le soupçonner quand même d'être à la fois juge et parti et de faire du lobbying au nom de son propre groupe.
J'ai pas l'impression, moi. Je crois que le mec, il est quand même droit dans ses bottes.
À partir du moment où il est PDG d'une boîte automobile, on peut se dire il essaye de tirer la couverture à lui, c'est normal.
Non, mais il n'est pas le seul.
Je me souviens de cette phrase de Tavares qui avait dit vous voulez qu'on fasse de l'électrique ? Ok, on va faire de l'électrique. Derrière, il ne faudra pas venir nous voir pour les émissions d'ondes, pour les ondes électriques, etc. Parce qu'on vous aura prévenu. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant, car très pragmatique. On sentait bien toutes les réticences de la filière auto qui aurait voulu privilégier le mix énergétique. Et ce mix énergétique est tombé à l'eau. Et
puis, ça ne va pas être un mix, ça va être du 100%. Et voilà. Comme mix, on repassera.
On aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est un gros sujet, Jean-Rémy Macchia, que vous amenez également dans sa roule. Vous êtes, je le rappelle, journaliste spécialisé auto, entre autres pour Auto Plus. Et merci d'avoir été avec nous.
Mais oui, à bientôt Laurence.
On vous embrasse. Au revoir.
Au revoir Pierre.
À suivre, on va parler de Mustang dans sa roule.
Sud Radio, sa roule.
Et on va parler passion à ce moment de notre rendez-vous. Passion Mustang, exactement. Ou Mustang Passion, ça dépend comment vous avez envie de lire le livre. Avec cette extraordinaire 3e édition qui est parue aux éditions Glénat. Et on reçoit son auteur, Benjamin Cuc. Bonjour Benjamin.
Bonjour Laurence.
Comment ça va?
Ça va très bien, je vous remercie.
Ça se voit, ça s'entend. Vous êtes journaliste spécialiste, entre autres, de l'automobile. Complètement piqué de Mustang. Vous en êtes à votre 3e édition avec ce livre que je tiens dans les mains?
Oui, la Mustang, c'est... Quand on y a goûté, on devient accro. C'est la pire des drogues et la meilleure en même temps, j'ai envie de vous dire. C'est parce que c'est vraiment la liberté, mais c'est la liberté sans l'excès. C'est une voiture qui est facile, qui est agréable, qui s'associe qu'à des moments agréables. C'est la voiture du cinéma, déjà, c'est la voiture la plus filmée au monde. C'est une voiture qui est pas très chère, c'est une voiture qui en jette, et qui est une voiture qui n'a que des avantages. Peut-être l'habitabilité des dernières générations à l'arrière, c'est moins bien que les premières, mais globalement, ça ne présente que des avantages.
C'est le symbole de la liberté. En introduction, vous parlez d'ailleurs sur votre livre, Mustang Passion en 3e édition, des Beatles qui font leur première tournée en 64, Simon & Garfunkel qui enregistre leur premier album. Voilà, vous nous resituez en 64 des choses, puisqu'on va commencer à ce moment-là. Et vous faites le parallèle entre Porsche et Ferrari qui ont un cheval cabré et Mustang qui est un cheval libre qui galope.
Exactement. Porsche et Ferrari, c'est l'emblème de Stuttgart, c'est le cheval qu'on dompte. Le Mustang, c'est l'Ouest américain, c'est le sauvage, c'est le cheval qui ne se dompte pas, qui se laisse aller, qui divague, qui fait la Californie, l'Arizona, le Nevada, tous ces grands espaces qu'on voit dans les films américains et qui nous font tous rêver. C'est l'idéal, c'est de les faire en Mustang. Moi, personnellement, pour ces espaces-là, je recommande plus le coupé avec de la clim que le cabriolet avec un coup de soleil.
Le livre est extrêmement bien fait, il est fait par année. Il est fait par ces grands moments. Alors, commençons en 64, puisque c'est vraiment une légende qui naît.
La Mustang en 64, elle est lancée. C'est une voiture imaginée par Lee Iacocca, qui est directeur chez Ford, pour les jeunes, pour concurrencer la Volkswagen. Coccinelle, elle coûte exactement le même prix qu'une Coccinelle aux États-Unis, 2 268 $, c'est-à-dire à peu près 15 000 €.
D'accord, en 64.
En 64. Et elle vaut le même prix. Donc, en un an, ils en vendent 1 000 000. C'est la ruée. Et c'est pas une voiture de riche, c'est pas une voiture de jeune, c'est une voiture de jeune, mais c'est pas une voiture de jeune riche. La première acheteuse de Mustang.
C'est une femme, donc.
C'est une femme.
Excellent.
Elle est institutrice.
On connaît son histoire, on sait pourquoi.
Oui, Gail Wise, elle est institutrice, elle achète une bleue décapotable, elle rentre dans la boutique, elle achète une bleue décapotable, c'est avec son mari, et Ford l'a restaurée après, elle lui a offert une restauration à sa voiture, elle l'a gardée pendant des années, et la voiture existe toujours. C'est increvable, une Mustang, parce que c'est un gros moteur, que c'était une très bonne qualité d'acier, c'était vraiment, c'est une voiture increvable, et une voiture populaire. Le premier châssis de Mustang, le châssis 001, ça a été acheté par un commandant de bord d'une petite compagnie canadienne. Ils lui ont, 2 ans plus tard, échangé contre la millionième Ford fabriquée. Il y a tout un imaginaire autour de la Ford Mustang qui est puissant. C'est une voiture dont l'imaginaire est sans limite.
Alors, imaginaire, évidemment, mais comme toutes les légendes, il y a toujours des histoires d'hommes et de femmes derrière. Mmh. Et c'est évidemment le cas pour Mustang. Vous nous parlez de la première personne qui a acheté une Mustang. Voilà, la légende commence à se former. Il y a d'autres années qui ont été incroyables, qu'on retrouve dans votre livre.
Il y a des années qui ont été incroyables, dans le sens où, bizarrement, chaque année, une nouvelle Mustang devait sortir. Et elle évolue considérablement entre la 64 et la 70, qui est la Mustang 1. Vous n'avez pas du tout le même aspect. La Mustang évolue en permanence en fonction des goûts et de l'époque. On peut les préférer ou pas. Après vient la Mustang 2, qui a été immortalisée par les drôles de dames. Puis la Mustang 3, qui est la voiture la plus filmée dans les années 80, qui ressemble quand même bizarrement à une Ford Sierra coupée. C'est pas la plus belle. C'est pas la plus agréable, c'est pas la plus iconique, parce que là, vraiment, la plus iconique, c'est la 1.
Ouais.
Et jusqu'à la résurrection avec la 5. Et quand Ford relance en 2005 la Ford Mustang 5, voilà, c'est une claque. C'est vraiment, c'est la Ford, c'est la renaissance du fastback sur une base extraordinaire. Le look est à tomber par terre, même 15 ans après, quoi.
Hop là, alors attendez, hop, je vous la mets sur le... Voilà, pour voir la Mustang 5 carrément devant moi, voilà, ça sera quand même beaucoup plus beau. Ça, c'est la 5, c'est la Renaissance, parce que c'est vrai que même la 4, hein, elle était bof. Hein. La 4, elle avait un côté très coupé à la serpe...
Un peu à la japonaise, ouais. Un peu, ça faisait... Ben, c'était les goûts de l'époque, hein, faut pas... c'est quand même... La voiture la plus vendue, la Mustang la plus vendue, faut savoir que c'est la Mustang 3, la Fox, dite châssis Fox, qui a été vendue à plus de 125 000 exemplaires par an pendant 15 ans. Et qui ressemblait à une Ford Sierra, quoi. Donc c'est pas ce qu'on avait chez nous en Europe, Sierra. Elle n'était pas homologuée pour l'Europe. Et après il y a la Mustang 6 qui est une pure beauté, qui vaut
celle-là, elle est énorme.
The Rocket, ouais.
On a complètement changé là. C'est-à-dire que là
on est dans l'hypersport. Ça fait 800 chevaux, c'est une préparation. Mais même la Mustang de base qui fait 400 chevaux. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que c'est une voiture qui coûte 40 000 euros, 45 000 euros en prix de base. C'est une voiture qui serait quasiment accessible si elle n'était pas hyper fiscalisée par le malus fiscal.
Et surtout là, cette année 2022, où on va encore se prendre un malus fiscal très fort, plus un malus au poids. Donc voilà, les Mustangs vont en prendre très cher. Quoi.
Ça va coûter très cher.
Est-ce que, entre les premières Mustangs, évidemment, qui sont les Mustangs légendaires, et celles que l'on voit... Aujourd'hui, les toutes nouvelles, il y a un tel delta, en fait, de technologie, de forme. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu, légèrement, cette identité du départ ?
Non, on l'a retrouvée, au contraire. Je dirais qu'avec les dernières, on l'a retrouvée. Et même avec la Mustang électrique, la Mustang Mach-E, qui, elle, est exonérée de tout malus, ce qui rend la voiture extrêmement sympathique.
Oui, mais elle est très chère, du coup, elle.
Non, pas si cher que ça. Elle commence à 60 000 pour une voiture électrique et pour surtout une icône comme la Mustang. C'est pas délirant, quoi. Je veux dire, n'importe quelle voiture électrique, c'est déjà cher en soi. Et là, vous avez une grande voiture confortable et qui roule de manière incroyable. On est vraiment au cœur de la légende.
Alors vous, Benjamin, vous êtes passionné de Mustang, on l'aura compris, hein, c'est votre troisième livre sur les Mustangs, en tout cas c'est la troisième édition Mustang Passion aux éditions Glénat. Vous publiez des essais comme ça, vous, régulièrement aussi, hein, parce que vous êtes un journaliste auto, dans Le Parisien entre autres, on peut vous retrouver.
J'ai arrêté Le Parisien, Le Parisien s'est arrêté, Capital et Management.
Et c'était quand vous avez arrêté Le Parisien ?
On s'est arrêté à la rentrée.
Ah là, donc septembre-octobre, au moment où est sorti le livre en fait.
Oui.
D'accord. Du coup, les essais que vous faites, par rapport aux autres voitures que vous avez l'occasion de tester de par votre métier, qu'est-ce que, pour vous, les Mustangs ont de plus ? Ou de moins ?
Le problème de la dernière génération de Mustang, c'est juste qu'elle est grande, elle n'est pas très adaptée aux routes parisiennes. Et de toute façon,
En même temps, la France, c'est pas que Paris, donc ça fonctionne.
Non, c'est pas que Paris, et c'est très bien, parce que même la voiture électrique et la Mustang électrique, dans Paris, vu la situation actuelle imaginée par la maire de Paris, c'est pas possible. Je veux dire, c'est devenu un tel cauchemar qu'on va s'abstenir d'aller rouler dedans. Mais ce qui est fabuleux avec la Mustang, c'est que... On touche réellement à l'histoire. Il n'y a pas de voiture... Il n'y a pas de voiture. Si, il y a quelques voitures comme ça, si vous montez au moment. Quelqu'un qui monte dans une Aston Martin, il a le frisson de se prendre pour James Bond de 30 secondes. Quelqu'un qui monte dans une Ferrari se prend pour Michael Schumacher.
La Mustang.
La Mustang, c'est, il se prend pour Steve McQueen, il se prend pour Aaron Paul, il se prend pour n'importe quel acteur de sa génération, il se prend pour n'importe quelle vedette à Hollywood, il se prend pour un Américain, même s'il est né à Courbevoie. Mmh. C'est le... ou à Besançon. Même Victor Hugo, qui est né à Besançon, se prendrait pour un Américain. Il y a ce supplément unique qui fait toute l'identité d'une voiture unique. Qu'on ne retrouve dans aucune autre voiture, parce que c'est même pas une voiture qui s'est illustrée en compétition, si un peu de rallye, pardon, si elle s'est illustrée un peu dans un peu de rallye, mais pas dans, c'est pas une voiture de compétition. Au départ, c'est une voiture populaire de route, c'est pas une voiture de circuit. Mais il y a ce supplément de la liberté d'âme, un supplément de liberté et d'âme qu'on retrouve dans le cheval qui court, quoi, non?
Vous avez parlé de Steve McQueen, il y a d'autres grands noms qui ont tenu le volant des Mustangs?
Bah, vous en avez plein, vous avez Harrison Ford dans un film Hollywood Homicide.
À l'américaine.
Il y a plein, c'est la voiture la plus filmée au monde. La première Mustang qui a été fabriquée, c'est Louis de Funès dans Le Gendarme à Saint-Tropez.
Ah oui, c'est vrai.
Dans une décapotable qui est une pré-série. Qui est une pré-série de Mustang. On la retrouve chez un collectionneur en France et c'est une pré-série. C'est une pré-série et c'est la première Mustang apparue au cinéma. Après, c'est Goldfinger, c'est James Bond contre Goldfinger, la Mustang. On la retrouve dans, je sais pas, c'est 60 ans de cinéma, 60 ans d'histoire de tout le monde.
Pour conclure, Benjamin Cuque, vous qui signez ce livre Mustang Passion, c'est la troisième édition aux éditions Glénat. En une petite minute encore, aujourd'hui il y a de plus en plus de clubs Mustang. Moi j'ai eu la chance d'en croiser un du côté de Cadarsac, pas loin de Libourne, en Gironde. On peut avoir une voiture de collection Mustang à partir de combien? On a un peu des chiffres?
Ah bah ça coûte, la Mustang, c'est ça qui est merveilleux, c'est que pour... Pour 20 000 euros, vous trouvez une Mustang avec un petit
de
peu
collection.
De collection, une des toutes premières. Vous la faites importer des États-Unis, ça coûte 1 000 euros à peu près. On trouve sur Internet des gens, c'est très facile, il y a des tas de sites où on peut la trouver. Ils facilitent le transport, ça coûte 1 500 euros. Le dédouanement, c'est 5%. C'est-à-dire que vous la payez 20 000 euros, vous rajoutez 1 000 euros de frais d'import et 1 000 euros de taxes.
D'accord.
Parce que c'est une voiture de collection. Ouais, ouais. La carte grise collection ne coûte rien. Et il faut juste un certificat de la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Ça coûte 50 euros à tout casser. C'est un plaisir de gourmet, accessible au prix d'un McDo, j'ai envie de dire. Mais quand on voit ce que coûtent certaines youngtimers aujourd'hui, qui n'ont pas l'esprit ou l'aura d'une Mustang, et pas le style, bah, franchement, pourquoi se priver, quoi.
Vous en avez une?
J'en ai une, mais je l'ai plus. Ça a été un crève-cœur.
Ouais. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'être venu à travers ce livre Mustang Passion, tous les modèles de 64 à nos jours. C'est aux éditions Glénat et c'est la troisième édition de ce livre. Merci beaucoup.
Merci.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous finissons notre rendez-vous avec l'échange avec Pierre au 0826-300-300. Vous faites ce numéro de téléphone et vous nous rejoignez pour parler de ce qui vous gêne par rapport à, par exemple, tout simplement la politique qui s'est mise en place au niveau routier ou tout ce qui est en train de changer. Bref, vos coups de gueule ou vos coups de cœur sur la voiture et la route, c'est tout de suite. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, Sud Radio.
Merci. Salut Oliver Twist.
Non, c'est Olivier de Lyon. C'est pas Olivier.
Et qu'est-ce que t'en disais qui twiste pas, Olivier? Est-ce qu'Olivier vous twistez?
Comment ça va?
Ça va, merci, ça va. Au travail, mais ça va.
On vous écoute.
Ma question, en fin de compte, moi je roule beaucoup. Ben, j'ai acheté une voiture japonaise-française, début de l'année, qui est hybride, qui je suis bien content. Mais par contre, le passage pour électrique, parce que je fais presque 30 000 km par an, ma question par rapport au devenir des voitures d'occasion électriques.
Ouais.
On parle jamais. Je ne sais pas combien au niveau cotation. Et bon, moi, je change souvent. Et c'est pour ça que je ne vais pas mettre un peu acheter une voiture électrique parce que je ne sais pas si je peux la revendre ou non.
C'est une bonne question.
C'est vrai, il y a un truc vraiment, je veux dire, total là-dessus, sur les voitures électriques d'occasion.
Alors, on en a parlé il y a quelques semaines, mais je vais vous répondre. La difficulté de la revente du modèle électrique, c'est que vous en trouvez des modèles électriques d'occasion. La difficulté de ce véhicule, c'est qu'il est très cher par rapport à ce qu'il y a en concurrence au même prix. Je m'entends. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique sous perfusion de bonus environnemental. Donc, ça vaut dans les 30 000 euros pour une Zoé, par exemple. Au final, vous l'avez aux alentours 23 000, 24 000 euros avec tous les bonus déduits. Mais la valeur de la voiture, c'est 30 000. Donc, lorsque vous allez la mettre sur le marché de l'occasion, ce véhicule va être extrêmement cher par rapport aux véhicules thermiques, diesel, essence, qui peuvent être de la même année, avec le même kilométrage. Donc, pas attractif. Deuxième point, Olivier, c'est que non seulement c'est pas attractif en termes de prix pour l'occasion, mais alors en plus de ça, vous êtes dépassé par les technologies. Regardez l'évolution des batteries électriques aujourd'hui, l'autonomie des véhicules électriques, elle a quand même infiniment progressé. C'est pas la panacée, c'est pas top. Franchement, moi je vais vous dire, si vous roulez à l'électrique, bon courage. Hein. Quand on se donne rendez-vous quelque part, je sais que c'est moi qui arrive en premier. Mais quoi qu'il arrive, la technologie, elle évolue, ce qui fait que votre véhicule électrique que vous achetez aujourd'hui, lorsque vous allez le revendre dans 4-5 ans, les batteries auront davantage d'autonomie et le véhicule électrique que vous proposerez en occasion, il ne sera pas très attractif pour les gens.
Oui, c'est ça.
Donc, je sais que je vais passer encore pour un anti-électrique, mais moi, j'ai horreur d'envoyer les gens dans le mur sous prétexte qu'il y a un constructeur qui me prête une bagnole. Donc, je ne mange pas de ce pain-là. Je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour... Il y en a d'autres qui font ça. Très bien, moi, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas vous parler de langue de bois. Le véhicule électrique, aujourd'hui, il n'est que très peu adapté aux besoins des Français. Il n'est que très peu revendable sur le marché de l'occasion. C'est pour ça que si quelqu'un me dit « je veux vraiment un véhicule électrique », moi je lui conseille une formule de leasing. Voilà, de location.
Eh bien écoutez, merci. Mais de toute façon, moi pareil, je ne suis pas pour l'électrique parce que pour le moment, même pour voyager, c'est impossible, il faut avoir deux voitures.
C'est ça.
Une voiture diesel et une voiture électrique. Pour le moment, je suis en hybride non rechargeable, je suis bien content. Et j'ai une voiture diesel pour faire les grandes distances.
Vous avez une hybride non rechargeable japonaise, c'est ça?
Tout à fait, voilà.
Honda?
Toyota?
Si c'était pas l'un, c'était l'autre. Hein.
tout à fait.
Moi, j'aime bien l'hybride non rechargeable, finalement, parce que ça permet un véritable appui de l'énergie électrique à une motorisation essence. Je trouve que c'est assez pertinent. Parce que, alors, je dis pas que tout le monde fait ça, mais la plupart de ceux qui roulent à l'hybride rechargeable rechargent que très peu. C'est très contraignant d'avoir un fil comme ça attaché à la voiture. J'ai fait l'expérience. Il faut quand même la bonne place de parking ou alors le bon garage avec la bonne borne de recharge, parce que c'est quand même extrêmement complexe. Hein.
Non, tout à fait. Moi, je suis affirmé libéral. Bon, je fais presque 30 000 à 25 000 kilomètres par an. Et bon, je suis très, très content de la Yaris. Bon, je peux dire son nom. Hein.
Oui, bien sûr.
La Yaris hybride, au niveau consommation, au niveau... Je suis très content. Et j'ai une voiture diesel, d'ailleurs, apparemment propre. Bon, voilà. Une Volvo, et que voilà, pour les grands voyages, je suis bien content.
Vous savez, le véhicule qu'on vous dit propre aujourd'hui, dans 10 ans, on vous expliquera qu'il était sale. Hein.
Voilà.
C'est pour ça que moi, vous ne m'entendrez jamais employer cette expression de véhicule propre, je parle toujours de véhicule moins polluant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 10 ans, on nous refera la même musique. Rappelez-vous, je veux quand même vous rappeler un truc, hein, c'est quand même intéressant. En 2008, 2009, 2010, et même les années qui ont suivi, on vous versait un bonus écologique pour l'achat d'un véhicule diesel. Et aujourd'hui, on vous explique que si vous avez un véhicule diesel, on va vous interdire de rouler avec. Alors autant vous dire que moi, je me mets à la place des Français, vous savez, ceux qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, là, et comme moi, moi je dis toujours, je suis le Pékin lambda, rien de plus. Eh bien, je me dis que franchement, c'est à y perdre son latin. Et quand je vois ce qu'on nous a fait acheter et aujourd'hui qu'on nous explique qu'il faut le revendre ou le mettre à la casse, eh bien, ça me donne pas envie de basculer sur l'électrique. Voilà.
passe pour des criminels, en fait. Voilà.
Ah oui, oui, bah, c'est de la stigmatisation.
De l'écologie, tout ça, voilà.
Voilà,
en tout cas, merci pour vos conseils, c'est super. Et continuez comme ça, voilà. Merci beaucoup.
Promis, on gardera pas notre langue de bois, nous.
Ni dans notre poche. Hein.
Ni dans la poche. La langue de bois de la poche, c'est pas chez nous.
Les programmes continuent sur Sud Radio pour ce dimanche soir. Soyez prudents si vous êtes sur la route. Et évidemment, nous, on vous retrouve très prochainement. Bonne soirée.